La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info. Voici ceux qui ont accepté de débattre ensemble des sujets à la une de l'actualité nationale. Je salue Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps républicain, et Thibaut Casal, enseignant, coordinateur du parti Génération pour la Haute-Garonne. Bienvenue à tous les trois, merci d'avoir accepté cette invitation à débattre ensemble. Nous allons revenir d'abord sur le déplacement de Gérald Darmanin lundi à Alger, où il a rencontré le président Tebboune avec l'objectif annoncé de relancer la coopération judiciaire entre la France et l'Algérie. Cette visite du ministre de la Justice s'inscrivait dans un processus d'apaisement des relations franco-algériennes, amorcé ces derniers mois après 2 ans de fortes tensions. Plusieurs dossiers ont été abordés lors de ces échanges. Côté français, en premier, le sort du journaliste Christophe Glaise, toujours détenu en Algérie pour le motif d'apologie du terrorisme, a également été évoqué la lutte contre les réseaux de narcotrafic et notamment contre ce qu'on appelle la DZ mafia. Et puis côté algérien, c'est le sujet des oligarques et de leurs avoirs en France qui a été mis en avant, ainsi que le cas de l'agent consulaire en détention provisoire dans notre pays, parce que soupçonné d'être impliqué dans une tentative de rapt présumé du youtubeur Amir DZ. Qu'est-ce que vous attendiez de cette rencontre sur les dossiers qui y ont été abordés? Et croyez-vous qu'elle puisse marquer une étape importante vers une forme de normalisation des relations franco-algériennes? On commence avec Marie-Christine Monnoyer.
Bonjour à tous. Alors, est-ce que cette rencontre va apporter des éléments? Quelque part, on ne peut que le souhaiter. On ne peut que le souhaiter, que les choses évoluent et qu'on ne reste pas dans un jour ça va, un jour ça va pas, un jour on emprisonne le premier qui arrive sur le sol algérien et un jour on laisse partir celui qui est en prison depuis des mois et des mois. Mais en fait, c'est pas tout à fait de cela que j'avais envie de parler en vous écoutant. Ce qui m'impressionne toujours, ce sont les réactions à la fois des journaux, mais de Monsieur Tout-le-Monde, après un événement, enfin un petit événement comme celui-là. Et ce qui m'impressionne, c'est la violence des réactions dans un sens ou dans l'autre, et surtout l'oubli majeur, à mon avis, de l'histoire France-Algérie. La France a été en Algérie pendant 130 ans. Et pendant 130 ans, les Algériens ont combattu X fois, et quand je dis X, c'est X égale 9, auprès des Français, contre les Russes, contre les Allemands, etc. Et on oublie que pendant toute cette période-là, ils ont combattu avec courage, avec détermination, qu'ils ont été félicités, oralement, un point c'est tout. Ils n'ont jamais été reconnus comme des citoyens français. Les seuls qui ont été nommés, qui sont devenus des citoyens, c'était les Juifs algériens, pas l'Algérien de Tizi Ouzou. Et donc, on oublie la rancœur absolument, mais énorme, que cette situation a fait naître. Et forcément, quand on a une rancœur de plus de 100 ans, avant d'être un diplomate tranquillou qui discute d'un problème comme est-ce qu'on va accueillir celui qui a fait des bêtises en France sérieuses et qui mérite d'être renvoyé, on va trouver des tas de bonnes raisons de ne pas le faire. Et donc, tant qu'on n'aura pas fait comprendre ou accepter qu'on a profondément maltraité les Algériens, eh bien, je crois qu'on n'y arrivera pas.
Même 60 ans, plus de 60 ans après
la l'indépendance ? Mais bien sûr, 60 ans. Hein ? Tout à l'heure, avant que nous soyons en train de discuter, mon voisin de droite racontait l'histoire de son grand-père qui a entendu le message du débarquement. Eh bien ça, nous l'avons tous en tête. Alors, il se trouve que moi, je suis née au Maroc et que, de ce fait, j'ai entendu peut-être davantage de choses. Mais ce qui me navre, c'est que moi, je suis née au Maroc, j'ai peut-être entendu, mais je ne l'ai jamais appris à l'école. Parce que toute l'histoire de l'Algérie, on ne l'a pas apprise. Et mes enfants et mes petits-enfants, ils n'en savent rien.
Oui, enfin, l'histoire de l'Algérie proprement dit, ça commence vraiment en 1962. Je parle de l'État algérien.
Oui, mais...
Vous parlez de l'histoire des Algériens, enfin du peuple. Pour revenir tout de même à la visite de Gérald Darmanin, est-ce que vous espérez que ça va avoir des conséquences bénéfiques, favorables, positives pour nos deux pays et que, par exemple, on va régler la question Christophe Glaize et puis tous les autres sujets qui ont été abordés?
Bien sûr.
Donc,
et je pense que c'est intéressant que ce soit Gérald Moussa Darmanin qui y soit allé.
Oui, enfin, il ne s'est pas présenté comme ça, je crois.
Non, mais...
Bon, vous avez de l'espoir, semble-t-il. Guillaume Aguilot.
Oui, bonsoir et merci pour votre invitation. Alors oui, juste petit aparté pour sourire, je suis effectivement le voisin de droite qui vient d'être présenté, mais il s'agit bien d'un positionnement géographique
pas,
sur la table, pas forcément de mon positionnement. Je préfère préciser les choses en ces temps où parfois effectivement l'incongruité peut exister. Qu'est-ce que j'attends de ça? Déjà, j'attends non pas une relance des relations, mais une reconstruction. Parce que pour relancer, encore faudrait-il que l'on ait un outil qui soit en capacité de fonctionner.
Des bases.
Et aujourd'hui, force est de constater qu'effectivement, il n'y a plus rien. Vous avez dit 2 ans de crise, je vais dire 2 ans de crise aiguë.
Aiguë, oui, parce que déjà...
Les temps de crise sont permanents. Et ça rejoint quand même un petit peu, d'ailleurs, aussi ce que vient de dire ma voisine.
De gauche.
ça rejoint tout à fait ce qu'elle vient de dire, à savoir que, en clair, votre question, et c'est ça qu'on veut aussi nous expliquer, hein, que le gouvernement doit nous expliquer, c'est qu'il souhaite normaliser les relations entre l'État français et l'État algérien. Mais les relations entre l'État français et l'État algérien ne seront jamais normales. C'est pas la peine de l'espérer. On peut l'incanter tant qu'on veut. Ça ne sera jamais le cas. Parce qu'effectivement,
c'est pour ça que j'ai parlé d'une forme de normalisation,
mais bien sûr,
en sachant d'où l'on part.
Mais bien sûr, nos histoires, et cette histoire est tellement imbriquée, effectivement. L'Algérie était française, mais les Algériens ne l'étaient pas. Vous l'avez très justement rappelé, sauf quand il s'agissait de leur faire porter les armes. Là, d'un seul coup, on se souvenait qu'effectivement, ils étaient mobilisables. Mais pas chaussables, puisqu'on leur mettait pas des chaussures. Il fallait pas non plus, bien évidemment, exagérer. Donc, tous ces ressentis-là... Alors, moi, j'entends ces discours qui disent « Ah, mais 60 ans après, effectivement... » Si effectivement il y avait eu 60 ans de travail des deux côtés de la Méditerranée.
C'est important de préciser.
Des deux côtés.
Il faut être deux.
Bien sûr. S'il y avait eu effectivement un vrai travail de mémoire, s'il y avait eu la volonté de faire ce travail de mémoire, les choses, on n'en serait probablement certainement pas là aujourd'hui, avec d'autres territoires, y compris qui ont été des colonies, que ce soit avec la France ou d'autres puissances coloniales. Hein. Les choses ne sont pas du tout aussi conflictuelles que là. Et là, effectivement, je crois que nous payons, là, pour le coup, littéralement, le poids du passé. Alors, que peut faire Monsieur Darmanin, ministre de la Justice, qui se rend à Alger? D'abord, envoyer peut-être un autre message qui est à la fois... on envoie le ministre de la Justice et pas le ministre des Affaires étrangères, déjà.
Oui, ben d'ailleurs, il était question de coopération judiciaire.
Voilà. En fait, on sait pourquoi. Parce que le ministre des Affaires étrangères, il y est déjà allé il y a quelque temps. Lui aussi, il est parti plein d'espoir. Bon, il est revenu. Il est revenu, lui, c'est déjà ça. C'est la différence avec d'autres qui, eux, ils sont allés et n'étaient pas revenus. Mais c'est à peu près tout ce qu'il a obtenu, c'est-à-dire la possibilité de remonter dans l'avion. Ça montre aussi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à ce micro, quel est l'état aujourd'hui de notre diplomatie, hein, et du regard porté par notre diplomatie, et notre poids réel de la diplomatie, pas forcément de la présidence de la République, mais de la diplomatie et de son rôle et de son travail. Qu'est-ce que j'en attends? D'abord que les gens recommencent à se parler, plus à s'invectiver, y compris encore une fois des deux côtés de la Méditerranée. Soyons très très clairs là-dessus. Et si on commence à se parler, alors on pourra de nouveau reconstruire des choses. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une mauvaise volonté ou un refus de principe de la part des autorités algériennes de refuser toute coopération, que ce soit, pas nécessairement par humanisme, mais ne serait-ce que par simple intérêt.
Vous avez
rappelé,
ça part souvent
il y a des intérêts communs, et quand on a des intérêts communs, on se met autour de la table et on discute. Ben, je crois qu'on en est à cette première phase-là. Alors, est-ce que j'ai de l'espoir? En théorie, oui. Est-ce que ça risque de se réaliser? Honnêtement, je n'en sais rien, parce que des fois, on se met autour de la table, on discute, Et puis on en arrive aussi à un constat d'incompréhension mutuelle. Et peut-être que on en est là. Alors, est-ce que tout est négatif ? Non, parce qu'effectivement, on est quand même aujourd'hui dans une reconstruction, dans un début de reconstruction, de refondation, ou de, en tout cas de déblaiement des ruines. Commençons par ça, que l'on n'a pas vu effectivement depuis plusieurs années. Et il est temps de s'y mettre, parce que plus ça va, plus la destruction continue.
Oui. Alors, Thibaut Casal, vous, qui est professeur d'histoire, je le précise, important.
Oui, bah,
et Guillaume Agulot est aussi historien.
Bonsoir, merci pour l'invitation. Du coup, je vais m'inscrire quand même un peu dans la continuité de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai entendu avant, dans le sens où, avec l'Algérie, il y a une histoire. Et le problème, c'est que bien souvent, peu de personnes sont au courant de cette histoire-là. Moi, je fais partie d'une génération où, pour la première fois, des enseignants commençaient réellement à en parler. Mais c'était une heure dans une scolarité. C'est rien, c'est absolument rien. Donc, j'ai des camarades qui se rappellent même pas, qui l'ont travaillé, qui m'ont dit ah, mais non, on l'a jamais vu. Bon, bah, moi, vu que c'était mon cours préféré, forcément, je m'en souviens. Mais c'était une heure, quoi. Une heure en troisième et en terminale. À ce moment-là, le programme était très intéressant, je trouve, le programme de terminale. J'étais en terminale littéraire. On avait les ES et les L, le même programme. Et il n'y avait pas la guerre d'Algérie, il n'y avait pas la Seconde Guerre mondiale. Il y avait les mémoires de la Seconde Guerre mondiale et les mémoires de la guerre d'Algérie, ce qui était beaucoup plus intéressant. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il a balayé ce programme d'histoire-géographie, et notamment cette question de la mémoire de la guerre d'Algérie. Et là, il y a une vraie erreur. Il y a une vraie erreur car non seulement on a un besoin de savoir ce qu'il s'est passé et sur un temps long, pas seulement la guerre, c'est ce qu'il y a avant, il y a la guerre et il y a après. Et aujourd'hui, en France, on le sait très bien qu'une partie de la population est d'origine algérienne. Moi, j'ai plusieurs élèves qui sont d'origine algérienne, qui sont français et algériens, voire des fois qui ne sont que français, mais d'origine algérienne. Et ces élèves-là, c'est leur histoire à 100%, parce qu'ils sont du coup mêlés des deux côtés aujourd'hui. Et bien souvent, ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Ou ils peuvent peut-être en entendre parler par la famille, et encore, moi j'ai été frappé par le fait que j'arrivais plus facilement à voir des personnes qui ont connu la Seconde Guerre mondiale et qui me racontaient ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, que des personnes qui me racontaient la guerre d'Algérie. Et pour dire le traumatisme qu'il y avait, notamment chez les soldats français, et certains qui faisaient partie du contingent et qui se retrouvent là-bas. Donc il y a un vrai traumatisme. Et donc, moi j'en veux terriblement à celles et ceux, et quand je dis ça, je pense notamment à M. Retailleau, qui est dans un sens dans une guerre d'Algérie permanente, où il ne cesse d'invectiver, d'attaquer, alors que la situation serait plutôt à la discussion et à l'apaisement. Alors, est-ce qu'on peut normaliser nos relations? Avec tout ce qu'on a dit, bien entendu, ça paraît compliqué de dire qu'on va avoir la même relation avec l'Algérie qu'on pourrait l'avoir, imaginons, avec l'Allemagne ou avec l'Espagne. Mais on pourrait avoir une relation totalement différente si, et c'est pour ça que je salue l'idée du gouvernement, du président de la République et de M. Darmanin d'aller en Algérie, car on a besoin de discuter ensemble. On a besoin de faire en sorte que les relations ne soient pas coupées. Ne soient pas coupées car on a une histoire commune. Et une histoire commune, c'est pas seulement le passé, comme je l'ai rappelé, c'est aussi voilà ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement avec, en France, énormément de personnes d'origine algérienne. Ce qui se passe en Algérie avec Christophe Glaize qui est emprisonné là-bas. Et enfin, je pense qu'on peut tous et toutes rappeler le soutien envers Christophe Glaize. Et on espère qu'il puisse revenir très vite parmi nous en France. Il y a... je pense la volonté, oui, de marquer une étape, et c'est réellement important dans la situation actuelle. Je pense qu'en plus à un an, parce que on le voit bien, il y a plein de réactions qui sont là parce que dans un an il y a l'élection présidentielle. Et je pense pas que d'être dans la guerre d'Algérie permanente soit une façon d'apaiser le pays à un an de l'élection présidentielle.
Vous êtes revenu là dans votre intervention sur le sort de Christophe Glaize, et donc c'était sans doute a priori, le premier sujet qui a été abordé par Gérald Darmanin lors de sa rencontre avec le président algérien. Alors, le ministre de la Justice, lui, s'est dit, après cette rencontre, très rassuré, ce sont ses mots, hein, sur la manière dont Christophe Glaize était traité par les autorités algériennes. Et il espère une grâce venant donc du président Abdelmadjid Tebboune à brève échéance pour que le journaliste français soit rendu à sa mère, comme l'a dit Gérald Darmanin, et à sa famille. Est-ce que vous partagez l'optimisme du ministre de la Justice? Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'humiliant et de choquant à ce que la France s'en remette à une grâce prononcée par le chef de l'État algérien, ce qui revient à reconnaître que Christophe Glaize est bien coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il a toujours nié? Marie-Christine Monnoyer.
Alors, Christophe Glaize n'est pas coupable, mais il a été très maladroit. Et c'est terrible, ça. C'est sans doute l'enthousiasme de la jeunesse. Mais quand on est journaliste et qu'on est dans un pays qui a des difficultés aussi lourdes avec son propre pays, il faut faire très attention à qui on interroge. Bien sûr, c'est normal d'aller interroger Pierre-Paul Jacques ou Ahmed, etc. C'est normal dans un pays comme la France. Mais dans un pays comme l'Algérie, non. Quand vous voyagez, je suis allée l'année dernière à Oman. Moi, femme française, je ne peux pas m'habiller comme je veux quand je suis à Oman. Je ne peux pas parler avec quelqu'un quand je suis à Oman. Un jour, j'étais dans un petit coin tranquille et je me suis baignée dans une petite rivière, en maillot de bain, bien sûr, une pièce, bien sûr. Immédiatement, il est sorti d'un bois, monsieur, qui m'a dit « j'appelle la police ». J'appelle la police. Et je dis « vous n'allez pas appeler une grand-mère ». La police pour une grand-mère qui se baigne en maillot de bain. Je lui ai dit ça. Il m'a demandé le nombre de mes enfants et de mes petits-enfants. Sinon, il appelle la police. Donc, vous voyez, quand on est hors de son pays, on ne peut pas imaginer que la liberté de parole, la liberté de discussion est la même que chez nous. Ça veut dire qu'on a beaucoup de chance d'être dans un pays dans lequel la liberté de parole...
Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il a été naïf d'une certaine manière?
Moi, je pense qu'il a été naïf.
Et qu'il a un peu cherché ce qui lui est arrivé?
Non, je ne dis pas ça.
Bah, il y a des gens qui vont le traduire comme ça.
Oui, mais je ne dis pas comme ça. Il ne l'a pas un peu cherché. Il ne s'est pas rendu compte qu'il allait entraîner une catastrophe nationale.
Mais pour lui, d'abord.
Et aussi pour lui, mais aussi nationale. Mais aussi nationale. C'est très embêtant, ça. Alors, est-ce qu'il faut... je crois que la meilleure solution aujourd'hui, c'est la grâce.
Ah ben pour lui, oui.
Oui, mais même pour nous, comme ça, qu'est-ce qu'on va aller dire? On va dire, c'est pas juste, la loi... Non, on ne peut pas dire ça.
On pourrait dire qu'il devrait être innocenté du fait que lui soit reproché. Guillaume Agulot, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Marie-Christine Monnoyer?
Non, pas tout à fait. Pas du tout, d'ailleurs. parce que en réalité, oui, effectivement, on va négocier une grâce parce qu'il faut que le régime algérien ne perde pas la face quelques mois après avoir perdu la face vis-à-vis de Boualem Sansal. Et que Christophe Glaize, aujourd'hui, va être échangé. Parlons-nous français, exprimons les choses, c'est-à-dire on va faire avec la dictature militaro-islamiste d'Alger ce que nous avons fait avec la dictature des Mollahs en Iran pour Cécile Kohler et Jacques Paris, où nous les avons échangés contre une agente iranienne de leur régime qui avait été condamnée, on l'a condamnée, on l'a expulsée, elle n'a pas purgé sa peine, condamnée et expulsée, et on a récupéré nos deux compatriotes, peut-être qu'eux aussi, alors auquel cas avaient été naïfs d'aller en Iran, mais j'ai appris qu'il y en a d'autres qui décident d'aller faire aussi le tour du monde en vélo et qui se font capturer, etc. Ça fait beaucoup de naïfs, je trouve quand même, mais clairement, avaler son chapeau à ce point-là, Gérald Darmanin a compris que c'était la condition sine qua non. Que s'il n'y avait pas cette déclaration-là, le reste de l'échange ne pourrait pas avoir lieu. Et pour revenir juste en une formule sur ce que a dit Thibaut Casal juste avant, sur ces jeunes, effectivement, et sur cette question des mémoires, la mémoire de la guerre d'Algérie, c'est d'autant plus fondamental ce que vous avez dit. Je ne fais alors qu'acquiescer et qu'abonder sur la nécessité de revenir à ça, parce qu'effectivement, en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que nous avons une grande partie de notre population, de nos concitoyens, de nos compatriotes, qui ont cette histoire-là aussi, qui ont ces histoires partagées, qui sont, comme on disait souvent, partagées entre deux rives, et qui, pendant longtemps, ont eu du mal à savoir se situer. Certains, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore pire. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, aujourd'hui, en réalité, par ces situations-là et par ces prises de parole-là systématiques, j'aime beaucoup cette formulation de dire « la guerre d'Algérie n'est pas finie ». Pour M. Retailleau, c'est exactement ça. Et très concrètement, notamment pour cette jeunesse, on est en train de les mettre dans un conflit de loyauté. C'est inacceptable, c'est insupportable. On est en train de leur dire...
C'est dangereux.
Soit tu choisis la République, parce que si tu es en France et que c'est la France et que c'est les valeurs de la France, etc. Soit tu choisis l'Algérie, mais les deux sont inconciliables, les deux sont incompatibles. C'est inacceptable de mettre, particulièrement des jeunes, quiconque, mais de mettre des jeunes dans une telle situation. Je vais même aller plus loin. C'est criminel. C'est criminel parce qu'on est, on sait très bien qu'on est en train de faire ça pour amadouer, brosser dans le sens du poil une fraction d'électorat qu'on souhaite à tout prix faire revenir dans son giron pour ses propres bénéfices, mais on est en train d'éloigner définitivement, hein, une partie de nos concitoyens, de nos compatriotes à qui on dit « tu ne seras jamais français ». Puisque tu es algérien, alors tu ne seras jamais français, c'est-à-dire en clair, les deux sont incompatibles. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Puisque justement, nos histoires sont imbriquées. Donc évidemment, ces apports multiples, ces fonctionnements multiples, ils existent, ils sont pas nécessaires. Ils existent, ils sont là. Alors il faut effectivement faire avec, et ça ne peut être fait que si l'on parle des mémoires. Et le vrai travail, c'est d'ailleurs la base de la réconciliation franco-allemande. Mmh. Le vrai travail, c'est que, qu'est-ce qui a changé les choses? Vraiment, je vais vous dire, c'est en 62, De Gaulle et Adenauer qui se mettent ensemble. La première, ça c'est extraordinaire, la première de leurs décisions. Vous savez ce que c'est à ces deux-là? Créer un cours d'histoire commun pour les niveaux d'équivalent lycée, gymnasium en Allemagne, lycée en France, des cours d'histoire communs. C'est-à-dire, on écrit, des historiens français et allemands se mettent ensemble pour écrire les cours d'histoire. On est sur la mémoire.
Je ne suis pas sûr qu'on ait l'équivalent de De Gaulle et Adenauer aujourd'hui de part et d'autre de la Méditerranée. Mais bon, sait-on jamais. Thibaut Casal, sur le sort de Christophe Glaize, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes un peu sur la ligne de Marie-Christine Monnoyer plutôt, ou plutôt sur celle de Guillaume Agulot?
Les différences sont un peu limitées, que on n'est pas si
oui,
opposé.
C'est, enfin,
toutes les nuances que...
Il faut peut-être nuancer un peu, dans le sens où je comprends ce que vous avez tous les deux voulu dire. Je pense qu'il y a une réalité, c'est que, et notamment dans le travail de journalisme, c'est lorsque l'on est à l'étranger, oui, il faut faire très attention. Je ne dis pas qu'il a forcément commis une erreur, etc. Mais il y a une réalité de « il faut faire très attention ». Car dans ces régimes-là, et on le sait, que cela peut très mal se finir. Donc, oui, peut-être qu'il n'a pas pris toutes les précautions qu'il devait prendre. Voilà. Mais on ne va pas le condamner, en fait. Hein, c'est le régime algérien qui le condamne. Bien entendu. Il faut peut-être, oui, lorsque l'on est à l'étranger, pour avoir aussi beaucoup voyagé, etc., on le sent bien que lorsque l'on est dans certains régimes, dans certains pays où certains régimes sont près ou de loin des dictatures ou des régimes semi-démocratiques, avec des très très gros guillemets, je déteste ce terme, mais bon voilà... oui, on ne fait pas forcément certaines choses que on a la chance de pouvoir faire en France. Au-delà de ça, sur la question de la grâce, en fait, faut se mettre tout simplement à la place de Christophe Glaize. Hein. La grâce, ça sous-entend qu'il va revenir en France. Vous savez, c'est un exemple historique, mais c'est l'affaire Dreyfus. C'est d'abord il y a la grâce. D'abord, il y a la grâce parce que, à un moment donné, il faut que l'innocent qui a été condamné puisse
sortir la liberté.
Et voilà. Donc c'est le premier point. Et ensuite, une fois qu'il sera gracié, il y aura un combat à mener depuis la France sur ce qui s'est passé. Et juste pour finir sur la question du droit de mémoire, une fois j'étais venu ici débattre et lorsqu'il y a eu la révocation des accords de 1968. Et entre la France et l'Algérie.
La question de la révocation.
Oui, la question de la révocation. Mais où à l'Assemblée nationale, il y a eu cette question-là. Et très vite, en fait, sur les réseaux sociaux, vu que tout peut être déformé très vite, Je m'étais retrouvé le lendemain avec des élèves qui pensaient qu'ils ne pourraient plus être franco-algériens parce que tout avait été déformé. Et ils sont venus me voir en me disant « Mais monsieur, nous, on est français, on est algérien, donc on ne veut pas choisir, on n'a pas à choisir. » Et c'est le problème, en fait, avec lorsque l'on parle de l'Algérie et cette, je répète le terme, mais cette volonté de certains de voir une guerre d'Algérie permanente, c'est qu'on en arrive à avoir des enfants qui sont totalement perdus. Et c'est lorsque ces enfants sont totalement perdus que on peut nous-mêmes, et là, quand je dis nous-mêmes, c'est la République, les perdre. Parce qu'il y a un vrai danger à laisser cette idée de monter les Algériens contre les Français contre les Algériens. Parce que ça marche aussi dans les deux sens, hein, dans ces moments-là. Donc je pense qu'il y a un vrai devoir de mémoire et un devoir tout simplement de la part de nos responsables politiques d'être à la hauteur sur cette question-là et de ne pas jeter de l'huile sur le feu alors qu'on parle de braise qui date d'il y a plusieurs années.
Alors il y a une autre question qui a été abordée par Gérald Darmanin qui est de plus en plus épineuse chez nous, c'est la lutte contre les réseaux de narcotrafic. Et puis il y a ce qu'on appelle la DZN mafia en France. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, DZN mafia, on va appeler ça mafia algérienne. Et donc il y a des réseaux de narcotrafic qui lui sont liés, elles pèsent de plus en plus. Et Gérald Darmanin, lui, il a déclaré qu'il était venu à Alger avec une liste de personnes affiliées à cette organisation et il espérait les faire extrader de leur pays, vouloir aussi mettre en place avec l'Algérie la méthode qui existe aujourd'hui, qu'il avait lancée aux Émirats Arabes Unis, en ciblant les avoirs des têtes de réseau de narcotrafiquants français. Est-ce que vous croyez que le pouvoir algérien puisse donner suite à ces demandes et à ces propositions, Marie-Christine Monnoyer?
Alors là, moi, je trouverais que c'est vraiment nécessaire. Est-ce que le pouvoir algérien va le faire? Ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais autant, je ne vois pas comment on peut faire autrement pour l'histoire de la grâce de notre journaliste sportif, autant là, il s'agit vraiment d'une réflexion lourde qui touche non seulement à l'Algérie et la France, mais aussi beaucoup plus large. Et donc, si on n'arrive pas, si les gouvernements n'arrivent pas à se saisir de cette nécessaire lutte contre les hauts trafiquants de drogue. En fait, cette fois-ci, c'est encore la jeunesse qui va en subir les conséquences. Donc, là, il faudrait être rudement ferme.
Guillaume Agulo.
Alors, étonnamment, là, je pense que j'ai peut-être un peu plus d'espoir sur le fait que des choses avancent et avancent assez rapidement sur le dossier de la DZ Mafia. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça devient vital, au sens premier du mot, pour notre pays. Hein, la déstabilisation, on n'est pas simplement sur du narcotrafic on aurait pu le connaître précédemment. On est sur... Il y a des territoires perdus de la République, oui, l'expression avait été utilisée par des idéologies politico-religieuses et notamment islamistes. Là, on est sur des territoires perdus, c'est-à-dire qui sont totalement hors de contrôle de quoi que ce soit vis-à-vis de la République, qui sont mis sous coupe réglée. Et pour autant, là, nous avons nos concitoyens qui y sont. Et il me semble que la sécurité, quand même, est le premier des droits auxquels les citoyens peuvent avoir.
Que la République promesse aux citoyens.
Exactement. Donc déjà, ça, la pression de notre côté sera plus forte. Mais je crois également qu'elle peut recevoir un écho du côté algérien, parce que je ne sais pas si c'est une mafia algérienne, la DZ Mafia. Je pense que c'est une mafia d'Algériens. C'est-à-dire que je ne pense pas que le régime algérien soit à ce point derrière, qu'il y ait parmi eux des corrompus, il y en a partout, hein, vous inquiétez pas, tout va bien, sans aucun problème et sans aucun doute. Mais que ça soit une stratégie, là je n'y crois pas. C'est-à-dire qu'en fait le régime algérien n'a pas forcément tellement d'intérêt lui-même à faire ça, parce que il voit bien aussi ce qui se passe en termes de déstabilisation. Peut-être que la réponse aurait été différente lorsque le Maroc avait organisé, l'État marocain, là, pour le coup, avait organisé, alors c'était pas avec les mêmes intentions, notamment criminelles, mais c'était avec des intentions de faire rentrer de l'argent, des tonnes entières de hachiches et autres. Exactement. Et qui est là, qui était organisé par l'État marocain.
Absolument.
Alors là, on pouvait aller les voir. Mais oui, on pouvait aller les voir pour dire arrêtez. Ça c'était non. Pour la DZ Mafia, le kiff, ouais. Pour la DZ Mafia, La situation est différente des deux côtés. D'abord sur le degré de dangerosité que ça fait perdre, que ça fait peser sur notre propre pays, premièrement, et deuxièmement sur le fait que l'État algérien n'y a aucun intérêt et ne voit pas d'un très bon œil toute autorité concurrente, parallèle que l'on veut, etc. Donc je pense que sur ce sujet-là, on risque d'avancer peut-être un petit peu plus vite.
Thibaut Casal.
Je pense aussi qu'on peut avoir un peu d'espoir sur cette question-là, notamment parce que, comme ça a été dit, le gouvernement algérien n'a pas un grand intérêt à voir la DZ Mafia
prendre de plus en plus de pouvoir.
Bien sûr, dans le sens où déjà la DZ Mafia, elle naît beaucoup plus, et c'est pour ça que c'est plus une mafia d'Algériens, dans le sens où elle naît en réalité beaucoup à Marseille et dans ses coins historiques aussi du grand banditisme français, hein, bien entendu. Avant c'était les Italiens et les Corses, maintenant c'est la DZ Mafia. Alors oui, on a atteint des sommets que peut-être les autres n'ont pas atteints, et encore, bon, faudrait quand même peut-être bien vérifier ça, mais la différence, c'est que pour le gouvernement algérien, il y a aussi une question qui est celle des avoirs de cette DZ Mafia, et notamment de l'argent qu'ils investissent en Algérie, là où, quand on voit par exemple ce qu'a réussi à faire le gouvernement italien pour vis-à-vis de les différentes mafias présentes, que ce soit Cosa Nostra, la Nangreta, etc., c'est qu'il y a quand ils arrêtent un mafieux, ils saisissent tout. Ils saisissent tout, et ensuite, ces biens-là sont soit nationalisés, soit sont redistribués au niveau de certaines collectivités, ou sont revendus aux enchères, etc. Tout ça. Et donc, il y a un vrai enjeu pour l'État italien, en plus, qui il gagne non seulement le fait d'arrêter les criminels, mais il gagne aussi au niveau économique. Et je pense que si l'Algérie prend cet exemple et fait ce calcul-là, elle peut y voir un vrai intérêt économique à reprendre possession de grandes bâtisses, de grands terrains, de plein de choses que sont en train de où la DZ Mafia est en train d'investir en Algérie. Et donc, oui, je pense qu'il y a des choses à sur le narcotrafic. De toute façon, hein, il faut, à mon avis, prendre exemple de tous les endroits où il y a une lutte réelle, la Colombie, l'Italie,
avec des résultats.
Et donc, faut prendre exemple sur ces pays-là, sur ce qui a marché, et aussi bien voir ce qui n'a pas marché, par contre.
Il me semble d'ailleurs que cela peut donner à l'Algérie une autre image diplomatique.
Exactement.
Et ça, c'est aussi intéressant. Ça n'est pas financier, mais sur le plan diplomatique, c'est intéressant.
Et dernier point d'ailleurs là-dessus, je me suis laissé dire que avec l'équipe de Darmanin, il y avait d'autres personnes, d'autres pays européens, dont des magistrats italiens qui faisaient partie de ce voyage, puisque c'était en réalité aussi une relance des liens entre l'Algérie et l'Union européenne, et des magistrats italiens
et
étaient présents.
Et notamment des pays du sud de l'Europe.
Et notamment des pays du sud
de l'Europe. Voisins immédiats de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce déplacement de Gérald Darmanin à Alger. Il y avait d'autres choses, d'autres sujets abordés, mais on ne peut pas tous les traiter ce soir. Nous verrons donc si ce voyage, cette visite, a des conséquences à court terme sur les relations entre la France et l'Algérie. Espérons en tout cas que Christophe Glaize sera libéré rapidement. Nous allons faire la pause habituelle dans cette émission. Retour à l'antenne dans une vingtaine de secondes. A tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct avec mes trois invités, Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps républicain, et Thibaut Casal, enseignant, coordinateur du parti Génération pour la Haute-Garonne. Je vous propose de revenir maintenant sur les réactions qu'a suscité la sortie du film « L'abandon » réalisé par Vincent Garinck. Je rappelle qu'il est consacré aux 11 derniers jours de Samuel Paty, jusqu'à l'assassinat du professeur et sa décapitation par un terroriste islamiste en 2020. Il a été présenté à Cannes, puis il est sorti la semaine dernière dans les salles. Il a rapidement déclenché une vive polémique et des critiques parfois violentes au sein d'une partie de la gauche et des médias, certains n'hésitant pas à le qualifier de dangereux, d'islamophobe, faisant jeu de l'extrême droite et créant un profond malaise. Est-ce que vous avez été choqué par ces réactions? Ou est-ce que vous partagez certaines des critiques adressées au film? Guillaume Agulot.
Choqué, le mot est faible. Je suis au-delà du choc quand j'entends ce genre de choses, y compris de la part qui, pour leur très très grande majorité, disons-le directement, ne font pas partie des plus de 200 000 personnes qui, en France, sont déjà allées le voir en une semaine. Ce qui est mon cas. Écœuré. Voilà, je dis le mot. Ces critiques-là sont totalement infondées. Elles ne sont basées que sur une idéologie préacquise. Et donc, pour ces personnes-là, effectivement, de toute façon, quel qu'ait été le propos du film, quelle qu'ait été la temporalité de sortie, de toute façon, par principe, nature et essence, c'est l'objet lui-même, le fait même, le sujet
qu'il existe,
qui pour eux est simplement insupportable, au sens premier du mot, au sens littéral du mot. Alors oui, effectivement, vous avez évoqué quelques éléments là qu'il préfère. Alors moi, je remarque toujours en plus avec, alors on a eu par exemple quelques youtubeurs en manque de notoriété, mais on a eu aussi le service culture du Huffington Post. On sait très bien qui a écrit, mais il a eu un tel courage de ses propos qu'il a décidé de ne pas signer son article. Libération ensuite évidemment la relayer, dans lesquelles, alors en gros, ils nous disent on n'a rien à dire sur le film, et évidemment sur le sort de ce pauvre monsieur Patty, oh là là, mais qu'est-ce que c'est terrible, non, là-dessus, ça, mais, et tout est dans le mais, c'est-à-dire qu'on retrouve de nouveau ces fameux oui mais, ceux qu'on a déjà entendus après l'assassinat de la rédaction de Charlie Hebdo, oui mais, ils avaient publié les dessins, ces fameux oui mais, systématiquement, qui sortent toujours des mêmes, et qui sont appuyés par c'est même plus des arguments à ce niveau-là. Une des choses, c'est de nous dire « c'est trop tôt ». De la part de personnes, je le redis, qui n'ont pas vu le film. C'est trop tôt. Bon, Jean-Jacques Hano a fait un film sur le sauvetage de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Personne n'a dit que c'était trop tôt.
En remontant plus loin, enfin, le Watergate, il y a eu...
Mais bien sûr, les jours du Condor, personne n'a dit...
Quelques années après. Donc...
De toute façon... 6 ans après, c'est trop tôt. 10 ans après, ça aurait été trop tôt. 20 ans après, ça aurait été trop tôt, etc., etc. Ce qui gêne ces personnes, c'est absolument pas des questions de temporalité, des questions de
véracité, de véracité.
Alors que tous les éléments, ce film-là est basé, c'est un thriller. Alors, par moment, on a presque le sentiment de se trouver dans un documentaire.
Oui.
Ce film-là est basé sur les rapports qui émanent de différentes administrations, y compris qui, pour certaines, ont reconnu leurs manquements, leurs erreurs, et pas forcément pour d'autres, mais tous les éléments qui sont cités dans le film, tous, absolument tous, sont des éléments qui sont sourcés, qui sont vérifiés, c'est-à-dire effectivement le manque de coordination, les acronymes, on voit tout ça, ceux qui auraient dû être vus qui n'est pas vu, etc. Mais aussi le fait que parmi les élèves et parmi les parents d'élèves de ce collège-là, qui avaient des questions à se poser, etc., certains ne comprenant pas et n'étant pas forcément d'accord avec le fait que cet enseignant ait monté son cours à partir de ces éléments disponibles sur la plateforme de l'Éducation nationale, parce que ça, c'est très très bien dit, qu'il ne décide pas de lui-même d'aller chercher ces documents-là, il va les chercher sur ce que l'Éducation nationale met à la disposition des profs pour qu'ils puissent illustrer leur cours de quatrième. Donc, ce sont des documents qui sont tout à fait validés. Et certains parents d'élèves n'acceptent pas, n'apprécient pas ça, mais disent bien, et c'est parfaitement dit parce que c'est des faits, disent bien qu'ils n'acceptent pas non plus le sort qui est fait à Samuel Paty, l'acharnement dont il est victime, les violences, etc., refusent de s'associer, de se solidariser à cette chasse en meute, à cette chasse à l'homme qui va finalement aboutir à sa mort. Tout est dit dans ce film-là, absolument tout est montré. Toutes les étapes sont montrées. Alors évidemment, bien sûr, il y a des choix qui sont faits. On n'a pas, par exemple, le fait que au niveau du cabinet de la rectrice de l'académie, donc au-dessus du Dazen, la consigne a quand même été de calmer. On le voit indirectement puisqu'on sait que c'est la rectrice qui l'envoie, avec cet inspecteur pédagogique régional Valeurs républicaines et laïcité qui explique que Monsieur Paty a un problème avec la laïcité. Il a appliqué le cours. Mais on nous explique qu'il a un problème avec la laïcité. Je ne reviens même pas, pour en avoir suffisamment parlé ici, sur les accusations d'islamophobie. J'allais dire presque, à la limite, j'aurais été étonné si elle n'avait pas été là. Elle y est bien évidemment, puisque dès qu'on parle de quoi que ce soit, forcément, par principe, nature et essence, on est islamophobe et tous ceux qui soutiennent ce film et qui, etc., sont fachos. Bon, là, on est dans la doxa et on va laisser cette petite mousse s'envoler au vent de l'histoire. Mais sur le fond, le propos qui se veut sérieux en disant, en prenant de la hauteur, oui, mais vous savez, moi je suis plus dans l'émotion, je regarde les choses, je suis tranquille, je suis un professionnel, etc. Et tous les arguments qui sont donnés, en réalité, il n'y en a pas un seul qui tient, parce que tout ce qu'ils disent pour dézinguer le film, ben en réalité, ça ne correspond pas, un, à ce qu'il y a dans le film, et deux, au fait que le film ne montre que ce qui s'est passé basé sur des faits réels. Une chose me rassure profondément, c'est les plus de 200 000, je l'ai déjà dit, plus de 200 000 personnes qui sont déjà allées voir ce film.
Et ça continue.
Et je pense que ça, c'est, allez, peut-être la meilleure réponse.
Oui. Thibaut Casal, vous aussi, vous avez vu le film très récemment.
Oui.
Vous êtes enseignant vous-même. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique et des réactions qu'a suscité ce film, d'autant plus que vous l'avez vu. Donc, vous pouvez nous dire si ça mérite vraiment une telle polémique.
Est-ce que ça mérite une telle polémique? Non. Est-ce que les réactions sont disproportionnées? Oui. Alors, je pense aussi que beaucoup de personnes, soit qui l'encensent, soit qui le détruisent, n'ont peut-être pas vu le film. Car honnêtement, après l'avoir vu, je ne vois pas en quoi je vais détruire ce film. Je ne vais pas forcément non plus l'encenser. Pour plein de raisons, mais donc je
pas
pense
trop
que
dans les considérations,
oui, voilà, c'est ça. Non, bien sûr, mais il y a plus, comment dire, je pense que le problème, c'est aussi peut-être le format 1h40. Alors peut-être il aurait fallu que ce soit un peu plus long pour peut-être montrer tout ce qui a failli, ce qu'on peut lire dans le livre de la sœur de Samuel Paty,
donc la sœur qui a
exactement
supervisé en partie le film,
le cours de Monsieur Paty
à l'écriture du scénario,
mais le film n'est pas tiré du livre de la sœur de Samuel Paty. Et c'est peut-être là le problème. Et je pense que c'est aussi ce qui a amené ce déferlement de la part d'une partie, notamment de mes camarades. Car oui, il y a une partie de la gauche qui est tombée sur le film, notamment parce que l'auteur dont est tiré le livre, le livre dont est tiré le film a été écrit par quelqu'un qui, on le sait, est proche des sphères d'extrême droite, etc. Donc, je pense que peut-être pour éviter aussi, d'ailleurs, tout ce procès en islamophobie, tout ça, peut-être qu'il aurait mieux valu tout simplement adapter le livre de la sœur. Et je pense que
oui,
on aurait déjà pu éviter. Non, bien sûr, mais
on aurait
déjà pu éviter plusieurs choses. Voir, on dit juste, on fait un film sur ce qui s'est passé, et pas tiré d'une œuvre ou autre. Je pense que déjà, on aurait pu éviter certaines choses. Quoi qu'il arrive, oui, il y aurait pu avoir des gens qui seraient venus redire
oui,
quoi que ce soit.
Façon,
bon. Moi, je pense que le film le montre peut-être pas assez, mais c'est toute la question administrative qui n'a pas fait son travail, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans la police. C'est montré peut-être pas assez. On passe, et à juste titre, énormément de temps sur la famille de l'élève qui a menti, et que c'est ce mensonge qui finit par amener ce drame. On a passé beaucoup de temps là-dessus, et c'est important. Peut-être qu'on aurait pu passer aussi plus de temps sur d'autres aspects de cette affaire. Je trouve
qu'on passe aussi beaucoup de temps pour détailler le cours, pour dérouler le cours,
oui.
Les cours, puisque c'est un enchaînement de deux cours.
Ça, c'est plutôt intéressant. Mais je pense, par exemple, après avoir lu notamment le livre de la sœur, moi, il y a un personnage où, après avoir lu ce livre et vu le film, je trouve qu'il y a un gros décalage. C'est la question de la principale.
On est d'accord. Ouais.
Et là, je trouve qu'il y a un problème. Parce qu'on sort, si on ne connaît pas l'histoire, on a vraiment de la peine pour cette principale, on a l'impression qu'elle a tout fait. Alors que non. Et le signalement est dans le film. Je vous le dis juste ça, je spoil, comme on dit, juste ça. Mais
on est là pour parler de ça.
On voit qu'elle écrit que le responsable de l'incident est un responsable de l'établissement. Mais on ne voit pas qu'elle a dit que c'était cet enseignant qui avait fait une erreur. lorsqu'elle signale ce qui s'est passé, elle met que Samuel Paty a fait une erreur. Et ça, c'est très important. Parce que c'est aussi une des données qui amène tout ce micmac après administratif, etc. Et ben, malheureusement, c'est pas montré. Donc je pense qu'il y a des choix qui ont été faits et qui sont pas forcément toujours les bons. Je pense aussi que il y a une manière de présenter les enfants où il y a un vrai parti pris, notamment sur la question du jour de son assassinat, où le terroriste pose une question à un élève qui lui dit non, et ensuite à un autre élève qui lui dit oui. On sait très bien que ça s'est pas passé comme ça. Il a demandé à plusieurs élèves, et plusieurs élèves ont refusé. Et là où je peux comprendre certaines personnes, notamment d'origine africaine, etc., qui en voyant la scène peuvent se dire, et qui connaissent l'histoire, c'est qu'il y a des élèves dits racisés qui ont dit non à ce terroriste. Et dans le film, on voit un élève blanc dire non, et ensuite l'élève noir qui lui accepte l'argent, et comme ce qui s'est passé dans la vraie vie, ça, par contre. Je pense que là aussi, ça aurait peut-être été pas mal de montrer aussi des élèves racisés qui lui disent non. De montrer aussi ce message-là, qui est présent avec certaines familles dans le film, peut-être pas assez. Et c'est là où peut-être aussi ça aurait été intéressant que dans le débat de ce soir, il y ait quelqu'un d'origine africaine qui a vu le film et qui dise comment lui peut-être l'a ressenti aussi. Parce que peut-être que on le reçoit pas forcément de la même façon. Donc voilà, moi c'est plus ces questions-là que je mets dans le débat. Mais les réactions, je trouve, sont disproportionnées. Ça, c'est clair et net.
Marc-Christine Moyer est né au Maroc.
Oui, mais... alors, ceci étant, je n'ai pas vu le film. Et
pas
donc,
encore, vous allez le voir, je
encore,
sais.
Ça, absolument. Mais, alors, comme je n'ai pas vu le film, quand vous avez posé cette question, je me suis dit, cette histoire, elle part en particulier d'un mensonge d'une élève. Et donc, ça m'a rappelé un autre film. Le film qui s'appelait « Pas de vague », qui a été réalisé en fin 2022, qui est sorti en 2024. Alors, ça finit pas par un assassinat, mais ça a entraîné de multiples polémiques aussi. Et je trouve que, pour moi, c'est extrêmement important, parce qu'au fond, ce type de film met en évidence que le public, les personnes, quelles qu'elles soient, ne vont pas réfléchir beaucoup plus loin que l'écume. Or, sur des films comme ça, il faut aller beaucoup plus loin que l'écume. Bien sûr que je suis absolument atterrée des réactions liées à l'islamophobie, etc., sur ce film. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne pense pas un tout petit peu plus aux problèmes qui se posent lorsqu'une personne est intégré dans un mensonge qui va transformer sa vie en horreur. Ça m'a aussi fait penser à la problématique des lanceurs d'alerte. Quand vous êtes lanceur d'alerte, eh bien, immédiatement, il y a une confrontation entre ce qui a conduit la personne à être lanceur d'alerte et l'énorme émoi qui va l'entourer, les attaques qui vont l'entourer parce qu'elle a été lanceur d'alerte. Cette histoire, c'est un peu la même chose. Et je suis très contente que vous ayez mis ce sujet à l'émission de ce soir, parce que si ça pouvait interpeller Monsieur Dupont, etc., sur son attitude quand il a vu un film, bon, quand il ne l'a pas vu, là, c'est catastrophique, mais quand il a vu un film, de se dire, attends, réfléchissons à ce qui s'est passé derrière. Et franchement, ça, c'est fondamental.
Ouais. Alors, en parlant de ceux qui n'ont pas encore vu ce film, certains ont demandé, beaucoup de gens d'ailleurs, demandent à ce qu'il soit projeté dans les écoles, les collèges, les lycées. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Guillaume Agulot? J'ai un peu une idée de votre réponse.
Mais... Oui. Oui, alors pas sans précaution.
Alors j'allais dire, voilà,
comment on l'entoure, comment on le présente.
Mais elles sont déjà prises, voilà, et disponibles, d'ailleurs je vous le signale, depuis hier sur le site de l'APHEG, l'Association des professeurs d'histoire géo, un dossier pédagogique remarquable qui explique bien comment amener le film, étudier le film avec des classes de 4e, Et qui va plus loin. C'est un dossier qui est librement téléchargeable, pas simplement par les profs. C'est le Zéro de Conduite qui est spécialisé vraiment dans, dans le site Zéro de Conduite qui est spécialisé là-dedans. Donc c'est estampillé en plus par l'APHG, l'Association des professeurs d'histoire géo. Donc là, c'est aussi quand même une garantie de sérieux sur le contenu, le fond, la forme, etc. Donc oui, je pense que c'est un film qui peut être utile. Maintenant, si c'est un film que l'on projette comme on a pendant des décennies eu des profs d'histoire qui nous ont projeté Nuit et brouillard en étant convaincus que parce qu'on allait montrer l'horreur, on allait blinder définitivement les élèves, on allait les vacciner définitivement contre le retour de telles horreurs, etc. Il vaut mieux qu'ils fassent pas. Je vous le dis tel que je le pense, il vaut mieux qu'ils, surtout qu'ils ne se mêlent pas de ça. C'est un film qui incite au travail, c'est un film qui incite à la réflexion. Et d'abord aussi, c'est un film qui incite à la réflexion en équipe. Et peut-être que moi, ce que j'aimerais bien, c'est que au moins certaines séquences de ce film puissent être projetées dans des salles de profs. Pour qu'ils puissent voir aussi comment, quand on est dans une situation, il y a cette scène qui est assez, qui est étouffante, hein, qui est très, 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 très lourde, où on a les profs qui, où on voit comment, ce que Michael Paty décrit bien dans son livre, hein, ce qui fait basculer, en fait, à l'intérieur du collège, c'est un prof qui dit je me désolidarise, qui me dit, etc., etc., etc.
C'est
etc.
dans l'abandon.
Et la scène elle-même est très dense à ce niveau-là. Et peut-être que ça aussi, c'est des choses qu'il faudrait remontrer à, peut-être à certains profs déjà entre eux, aussi aux élèves, mais à certains profs entre eux. Donc montrer ce film, oui. Le montrer parce que c'est bien de le montrer, de rendre hommage à M. Paty. Si c'est que ça l'objectif, faites autre chose. Faites autre chose.
Le professeur Thibaut Casal, qu'est-ce qu'il en pense ?
Moi, je ne sais pas s'il faut le montrer dans des classes ou non. Après, moi, je pars du principe, moi, j'aimerais hein, que, de toute façon, les profs, en général, soient assez libres sur le contenu qu'ils puissent montrer ou non. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, je ne sais pas si je l'utiliserai, mais je peux comprendre que certains collègues puissent avoir envie de l'utiliser. Moi, je pense que, voilà, il faut que les enseignants et enseignantes aient une vraie liberté sur le choix des films, des scènes qu'ils peuvent présenter. Alors avec, bien sûr, cette idée qu'on ne va pas pouvoir présenter non plus n'importe quoi. On voit avec l'administration, on a un accord, etc. Mais je pense qu'il faut laisser quand même une vraie liberté de contenu aux enseignants sur ces questions.
Marie-Christine Meunier, qui vous-même étiez professeur.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Guillaume. Je crois que c'est un travail qui doit être fait d'abord entre profs. D'abord pour ne pas être laissé seul par rapport aux élèves qui vont le regarder. Et avoir réfléchi ensemble comment on va le présenter. Je me souviens quand j'ai vu Nuit et brouillard dans la salle de gym, parce qu'il fallait que toute la salle soit là et qu'on regarde Nuit et brouillard. Et en fait, on était perdus. Parce qu'on était vraiment perdus. Personne n'en a parlé après.
Ni avant.
Et donc, je nous revois dans cette salle. Hein. Donc, ça m'a marqué, mais ça ne m'a pas fait réfléchir. Or, je trouve que là, il faut que ça fasse réfléchir. Il faut que les élèves se disent, à certains moments, pourquoi en tant que prof, je ne dis pas, je dis mon collègue, mais il faut le défendre. Hein. Que ce soit mon collègue, que ce soit le copain de l'école, que le père qui n'a pas posé X fois la question à sa fille et qui l'a cru bêtement, sans s'interroger, sans comment est-ce possible ? Il faut vraiment réfléchir. Ouais.
Nous allons clore le sujet pour aujourd'hui. Les derniers instants de cette émission vont être consacrés à vos coups de gueule, aux coups de cœur du jour. Thibaut Casal, vous avez la parole. Alors, assez rapidement tous.
mon coup de gueule, c'est ça se passe en ce moment à Cannes, où on voit en fait le peu de considération que reçoivent les acteurs et actrices qui ont signé la tribune contre Bolloré. Et encore pire, le vrai coup de gueule, il est sur la réaction de Canal+, de dire ben, on va boycotter ces personnes-là. Je trouve que c'est pas la bonne manière de traiter le sujet, et j'espère que le cinéma français va pouvoir trouver une porte de sortie entre Canal+ et ses professionnels.
Ça aurait pu être le sujet de cette émission. Marie-Christine Monnoyer.
Alors moi, j'ai un coup de gueule et un coup de cœur. J'ai un coup de cœur parce que je suis très contente que le pape vienne en France. Je trouve que c'est bien parce que dans le dernier voyage qu'il a fait en Afrique, il a dit des choses tellement intéressantes que je voudrais bien qu'il en dise des aussi intéressantes sur le sol français. Je pense qu'il peut les dire.
Et il viendra à Lourdes, donc voilà. Dans notre région.
Mais j'ai aussi un coup de gueule parce que ce matin, j'ai lu les statistiques d'Amnesty International qui disent qu'en 2025, on n'a jamais autant condamné à mort sur la planète. Ouais. Et ça, je me dis, c'est pas possible. On va jamais s'en sortir de cette histoire.
Ouais. Guillaume Agulot.
Moi, c'est aussi un coup de gueule. Ça rejoint un petit peu ce que Amnesty a pu écrire dans son rapport. C'est vis-à-vis du régime iranien, pardon, qui continue, malgré toute l'actualité, lui en interne, à éliminer ses opposants, à condamner à mort et à exécuter.
On n'en parle plus.
Et notamment des femmes. Et ben, ce soir, j'allais dire plus que jamais, femme, vie, liberté.
Ouais. Oui. Marie-Christine Monnoyer, je pense que ça aurait aussi pu être votre coup de gueule, ça.
Absolument.
Nous sommes arrivés au terme de cette 229e mêlée de l'info. Il y avait des sujets qui n'étaient pas faciles à traiter. Je voulais vraiment vous remercier tous de les avoir traités avec beaucoup de hauteur. Merci donc infiniment d'avoir été les invités de cette émission. Merci aussi à Yannick Galupini qui l'a réalisé. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous ceux et à toutes celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec d'autres débats, d'autres débatteurs et d'autres sujets. À bientôt. We'll be right back.